On va lire depuis le verset 15. Je pense qu'on a arrêté la dernière fois, on s'est arrêté au verset 14. Je vais reprendre tantôt. On va lire depuis le verset 15. Donc, Hébreux 9, verset 15. Et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur intervienne, car un testament est valide lorsque la mort est intervenue, puisqu'il n'a pas de force tant que le testateur vit. De là vient qu'aussi la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang, car chaque commandement pour ce qui concerne la loi ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope, et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple, en disant: c'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné. Et de la même, et de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle aussi, et sur tous les ustensiles du service. Et presque toutes choses sont purifiées par du sang, selon la loi. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux puissent purifier par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Car le Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien, puisque dans ce cas, il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. Jusqu'ici pour ce soir. C'est un passage difficile, mais si vous voulez garder la grande ligne, les grandes lignes, c'est vraiment un sommaire de la beauté de la personne du Seigneur Jésus et de son œuvre. Dans cet épître, nous voyons que le Seigneur Jésus est plus grand que les anges, chapitre 1er, et aussi qu'il est plus grand que Moïse, Moïse qui était donc l'homme qui représentait vraiment le judaïsme, et il est plus grand que tout le service lévitique. Donc, dans Hébreux, on voit vraiment de grands contrastes. La personne du Seigneur en contraste avec d'autres personnes. L'œuvre du Seigneur en contraste avec les sacrifices sous la loi. Il y a de grands contrastes. Mais il y a souvent aussi des parallèles, et c'est ce qui rend les choses difficiles. Parce que s'il y a des parallèles entre le Seigneur Jésus et les choses de l'Ancien Testament, ça n'efface pas les contrastes. On doit donc surtout saisir les contrastes. Pour donner juste un exemple, nous allons voir dans le chapitre 10, une prochaine fois, si le Seigneur nous laisse encore ici, que nous avons maintenant un libre accès. Chapitre 10, verset 19. Nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus. Ça, c'est en plein contraste avec l'Ancien Testament, où cette liberté n'était pas connue, pas du tout. Donc, c'est en même temps un sujet important qu'on voit dans l'Épître aux Hébreux, que les privilèges que les croyants ont aujourd'hui sont des privilèges beaucoup plus grands que les croyants avaient dans l'Ancien Testament. Et le secret est vraiment notre lien avec le Seigneur Jésus, parce que sa place dans la gloire est notre place. On verra cela en plus de détails dans chapitre 10. Et ainsi, il y a de grands contrastes. On a vu, chapitre 3, Moïse, l'apôtre, par rapport à l'ancien système, le Seigneur Jésus, et l'apôtre par rapport au nouveau système. Aaron, sacrificateur, par rapport à l'ancien système. Christ, le sacrificateur, le grand, le souverain sacrificateur, par rapport au nouveau système, selon l'ordre de Melchisédek. Maintenant, on a vu que ce n'est pas seulement une question de la grandeur du Seigneur Jésus, mais aussi du fait qu'il a introduit un nouvel ordre de choses. Et par rapport à ce nouvel ordre de choses, on a vu dans chapitre 8 que Dieu introduit une nouvelle alliance. On a vu littéralement cette alliance va être conclue avec Israël dans les jours à venir. Mais le Seigneur Jésus a établi la base pour cette nouvelle alliance. Et nous profitons déjà maintenant des fruits de cette œuvre qu'il a accomplie, comme on verra surtout dans chapitre 9 et 10. Donc, une meilleure personne et aussi un meilleur ordre de choses. Comme on a vu avec Melchisédek, un ordre de choses qui était différent, un accès direct auprès de Dieu. Et on verra aussi ce soir une conscience purifiée. Sous la loi, c'était impossible. Et une rédemption éternelle. Donc, c'est vraiment merveilleux. Donc, une nouvelle sacrificature comparée avec l'ordre d'Aaron. Et ça va ensemble avec une nouvelle famille d'adorateurs. Et on verra donc dans chapitre 10 que nous avons cette liberté d'entrer dans la présence immédiate de Dieu pour adorer. Dans chapitre 9, nous voyons d'abord un nouveau sanctuaire. On a parlé de cela la dernière fois. Ce tabernacle terrestre était une image de ce lieu que nous avons maintenant, mais aussi de grands contrastes. Comme j'ai dit, dans l'ancien système, l'entrée était vraiment fermée. Dans le nouveau système, l'entrée est ouverte, parce que Christ est là et on le voit par la foi. Mais tout cela, pour tout cela, un sacrifice était nécessaire. Et c'est ça le sujet pour ce soir. On a touché déjà un peu la dernière fois, par exemple, au verset 12, avec son propre sang. En contraste avec le sang de bouc et de veau, Christ est entré par son propre sang. Ce n'est pas littéralement qu'il a amené son sang dans la gloire, mais c'est ayant versé son sang, l'entrée a été ouverte une fois pour toutes dans les lieux saints. Verset 12. Résultat, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc là, encore des contrastes, le sang de bouc et de taureau, en contraste avec le sang de Christ et la valeur et le résultat de ce sang versé. Le sang de Christ, verset 14, il est ajouté aussi qu'il s'est offert par l'Esprit à Dieu. On a vu donc la dernière fois que là, la Trinité est impliquée. Cette œuvre de la rédemption, c'est l'œuvre de Christ, mais c'est par l'Esprit qu'il s'est offert lui-même à Dieu. Et offert, ça veut dire qu'il s'est présenté comme un sacrifice. Les sacrifices dans l'Ancien Testament étaient présentés par le souverain sacrificateur ou par les sacrificateurs. Ici, le Seigneur Jésus est le sacrifice, il se donne lui-même. Son sang a un meilleur prix, beaucoup meilleur que le sang de ses boucs et de taureaux. En plus, il est le sacrificateur. C'est lui qui présente le sacrifice. C'est lui qui présente ces choses à Dieu, comme sacrificateur. Et on verra, et on l'a vu déjà, mais on verra encore, le Seigneur Jésus est vraiment tout dans cette épître. Il fait tout, il est tout. Tout dépend de lui. On verra cela aussi au verset 15 avec le médiateur. Tout dépend de lui. Mais avant qu'on arrive au verset 15, j'aimerais encore mentionner au verset 14, il était sans tâche, son œuvre était sans tâche, son sacrifice sans tâche. Le résultat, la purification. Pas une purification des œuvres mortes. Si c'est les œuvres mortes, c'est par rapport au service lévitique. Cela ne pouvait pas vraiment introduire des remèdes. C'était des œuvres mortes. C'est clair, son sang peut purifier des œuvres méchantes. Ça, c'est pas le sujet ici. Le sujet ici, c'est le sang était nécessaire même pour ces sacrificateurs qui étaient là tout le temps pour servir Dieu dans le tabernacle. Leur service ne pouvait pas vraiment avoir un résultat définitif. C'était impossible. Maintenant, nous sommes capables de pouvoir servir le Dieu vivant. Quel contraste avec ce service lévitique des œuvres mortes. Nous avons le privilège, comme croyants, comme chrétiens, de pouvoir servir le Dieu vivant. Et on verra cela encore, je répète, dans chapitre 10, lorsqu'on va entrer dans les lieux saints par le sang de Jésus, par le chemin nouveau et vivant. Chapitre 10, verset 20. Donc, par rapport à Christ, c'est le service du Dieu vivant, tout est caractérisé par la vie. Tandis que l'Ancien système était marqué par la mort. Évidemment, on verra aussi tantôt que la mort du Christ était nécessaire. Donc je ne dis pas qu'on n'a rien à faire avec la mort, mais la mort était le moyen pour introduire ce nouveau système, avec ce nouveau service, avec cette relation avec le Dieu vivant. Et comme j'ai dit tantôt, tout dépend de lui. Et on voit encore cela au verset 15. C'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance. Donc on a parlé de la nouvelle alliance, chapitre 8. Maintenant, le Seigneur est le médiateur, ça veut dire il prend la cause de Dieu sur lui. Et en même temps, il prend la cause du peuple sur lui. Et par application, de nous. Il prend la cause des deux sur nous. Déjà, Job, dans l'Ancien Testament, Job a demandé, c'est intéressant de voir ça dans chapitre 9. Job, dans l'Ancien Testament, il a crié à Dieu. Il était dans une grande détresse. Et au chapitre 9, verset 33, il dit, il n'y a pas entre nous un arbitre qui mettrait sa main sur nous deux. Donc, Job réalise qu'il avait besoin d'un médiateur, quelqu'un qui prenait sa cause sur lui, en même temps qu'il prenait la cause de Dieu sur lui, et qui serait impartial. Un médiateur est caractérisé par le fait qu'il ne prend pas parti. Il ne prend pas parti pour Dieu, mais d'un sens, il représente Dieu, mais pas parce qu'il est préjugé. Un médiateur n'est pas préjugé. Il prend la cause de Dieu, celui, mais il allait prendre aussi la cause de Job, celui, qui mettrait sa main sur nous deux, ça veut dire sur Dieu et sur Job. Dans le chapitre... un peu plus loin, on voit un peu, je pense, vous avez donné cette référence aussi, dans chapitre 16, dans Job 16, verset 21, que n'y a-t-il un arbitre pour l'homme auprès de Dieu et pour un fils d'homme vis-à-vis de son ami? Donc Job réalise le désir, même la nécessité d'avoir un arbitre ou un médiateur qui prenait sa cause sur lui. Et c'est ça qu'on voit maintenant dans Hébreux 9. On sait, il y a d'autres passages, vous pouvez vérifier cela dans Galates 3, il y a un médiateur, et dans 1 Timothée 2, Christ, médiateur entre Dieu et les hommes. Et ainsi, il prend donc entièrement la cause de Dieu sur lui, on voit cela surtout dans Galates, Et il prend la cause de l'homme sur lui. Et il réconcilie les deux. Ça, c'est vraiment remarquable, comment le Seigneur fonctionne comme médiateur. Mais je répète, tout dépend encore de lui. Le sacrifice, on a vu tantôt, le sacrificateur et maintenant le médiateur. Et c'est dit d'une nouvelle alliance. Je ne vais pas répéter maintenant ce qu'on a vu dans le chapitre 8, mais c'est donc un ordre de choses qui a été introduit sur la base de ce nouveau sacrifice et pour réglementer les choses avec Dieu, pour la relation avec Dieu, le peuple avec lui. Verset 15 continue à dire, en sorte que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Donc, verset 15 est un verset important comme verset 14. Et peut-être je peux mentionner cela pour que vous puissiez suivre la grande ligne. Chapitre 9, verset 14 et verset 15 est vraiment une vérité fondamentale, représente une vérité fondamentale. Et cette vérité va être reprise au chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Vous voyez, chapitre 9, verset 14, il parle de la purification de la conscience pour servir le Dieu vivant. Et au verset 15, on a lu tantôt de cette rançon qui était nécessaire pour ceux qui sont appelés. Et cette même pensée va être reprise au chapitre 10, verset 14. Par ce seul sacrifice, il a rendu parfait. C'est la même pensée, purifier la conscience, que la loi ne pouvait jamais faire. L'ancien système ne pouvait jamais rendre les gens parfaits quant à leur conscience. Il avait offert un sacrifice, le lendemain ils l'ont péché, encore la même procédure. Tandis que pour nous, Christ s'est offert une fois pour toutes, et toute la question du péché a été réglée. Même les péchés qu'on commettra encore malheureusement. Toute cette question a été réglée une fois pour toutes. C'est ça la grande question. Et ainsi, il nous a rendu parfait, verset 14. Donc on va revenir à ça plus tard, Dieu voulant. Mais c'était nécessaire, cette position de perfection était nécessaire pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Donc on reprend maintenant chapitre 9, verset 15. Il est médiateur. Le résultat, en sorte que la mort étant intervenue. Et on va revenir à la nécessité de la mort encore au verset 16 et 17, je dis maintenant. Donc on va revenir sur cette nécessité de la mort. La mort est la base pour que les transgressions puissent être enlevées. La mort est la base pour introduire des bénédictions. Donc la mort de Christ fait deux choses. Enlève les transgressions, introduit les bénédictions. Et on voit ici que par la mort, il y a la rançon des transgressions. La rançon veut dire la rédemption, vraiment. Et c'est un mot encore plus fort que ce qu'on a eu au verset 12, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le mot veut dire libération. Ici, le mot rançon est un peu plus fort encore. Donc c'est une rédemption, mais par rapport aux transgressions. Personne ne pouvait se libérer du poids des transgressions. Et si on lit Romains 3, c'est clair, tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Le fardeau des transgressions, personne ne peut enlever ce fardeau. Mais ici, la mort de Christ a été intervenue, et c'était pour la rédemption, pour la rançon des transgressions. Et ainsi, on voit dans ce contexte, je le dis maintenant, que ce n'est pas juste une question de couvrir des transgressions. Sous l'Ancien Testament, les péchés, qui étaient aussi des transgressions, parce que les péchés sont devenus des transgressions, parce que chaque péché n'est pas automatiquement une transgression, mais sous la loi, les péchés sont devenus transgressions. Et mon point est maintenant que sous la loi, il y avait donc une provision, c'est le sang des animaux. Et qu'est-ce que ce sang faisait? Ce sang a couvert les péchés. Donc Dieu ne voyait plus ces péchés-là à ce moment-là. Dieu voyait le sang de l'agneau ou le sang du sacrifice. En contraste avec le sacrifice de Christ, là, on voit dans cet épître, il y a une purification et ainsi le péché est effacé. C'est ça le grand contraste. Le sang de Christ, ce n'est pas juste une question de couvrir, mais le sang de Christ a effacé. Et c'est pour ça que ce mot est utilisé, la rançon des transgressions. Les transgressions n'existent plus à cause de cette œuvre. On voit aussi les récipients de ce bénéfice. Ici, donc, littéralement dans le contexte, c'est ceux qui étaient sous la première alliance, ceux qui étaient sous la loi, et qui croient maintenant, ils connaissent cette rançon. Ils connaissent cette rédemption sur la base de la mort de Christ. Et ils sont maintenant ceux qui sont appelés à la fin du verset 15. Ça fait penser au chapitre 3, saints frères participants de l'appel céleste. Ce sont des croyants donc appelés. Et ça s'applique à nous aussi. Nous ne sommes pas des Juifs, mais nous avons été appelés et nous recevront aussi l'héritage éternel. L'héritage, c'est tout ce que Dieu a réservé pour les héritiers. Christ est le grand héritier, mais il partage tout avec nous. On a vu dans le chapitre 1er que Dieu l'avait déjà établi héritier avant que Dieu commence la création. Dieu voulait avoir un héritier, Christ, avant qu'il crée le monde. Et nous avons un lien intime avec Christ. Donc nous avons une part, un héritage éternel à cause de son œuvre accomplie. Et cet héritage a été promis. La promesse, c'est un mot qui revient 14 fois dans l'Épître aux Hébreux. Donc c'est pas le verbe ici, promettre, mais c'est selon la note, la promesse de l'héritage éternel. Et le mot promesse revient 14 fois, 2 fois 7 dans cette épître. Dieu est le Dieu des promesses. Et Dieu est garant que ses promesses s'accomplissent. Donc, ceux qui ont été appelés, est-ce que ça s'applique à nous aussi? Oui. Dieu nous a appelés pour recevoir un héritage éternel selon sa promesse. Donc ce sont de merveilleux sujets à étudier. La question de l'héritage, la question de la promesse, la question de l'appel de Dieu, comment il nous a appelés, ce sont de merveilleux sujets. Mais je répète, toutes ces choses nous ont été données sur la base de la mort de Christ. Verset 16, c'est maintenant une parenthèse pour expliquer la nécessité de la mort. Sans la mort du testateur, les héritiers ne peuvent rien recevoir. C'est connu. Si ton père a écrit un testament et puis il te donne sa maison, aussi longtemps qu'il vit, tu n'auras pas cette maison-là. Mais s'il meurt, tu auras cette maison, parce qu'il a écrit dans son testament. C'est ça la pensée ici. Pour être héritier, en réalité, pour jouir de cet héritage, il faut que la mort du testateur intervienne. Et je répète, j'ai dit tantôt, la mort enlève donc les entraves et la mort introduit les bénédictions. Ainsi, aussi la jouissance de l'héritage. Maintenant, une question compliquée, peut-être, dans le grec, le mot testament est le même mot que alliance. Dans versets 16 et 17, c'est clair que le mot « alliance » ici veut dire vraiment un testament. Mais c'est quand même le même mot dans l'original. Et ça veut dire donc, pour jouir de l'alliance, pour avoir la joie de ce que l'alliance introduit, ça prend la mort du testateur. C'est l'argument. La mort est absolument nécessaire. Sans sa mort, on ne peut pas jouir des droits qu'on a en principe. On peut seulement jouir de ces choses sur la base de la mort qui est intervenue. Verset 18. De là vient aussi la première alliance n'a pas été inaugurée sans du sang. Donc même la première alliance a connu le principe de la nécessité de la mort. Le sang nous parle de la mort et que la mort doit intervenir. Donc sous la première alliance, ce principe était aussi reconnu. Verset 19, car chaque commandement pour ce qui concerne la loi ayant été proclamé par Moïse à tout le peuple, il prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope et en fit aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, c'est ici le sang de l'alliance que Dieu vous a ordonné. Donc la pensée qu'on a ici, l'auteur, l'apôtre Paul évidemment, mais ça c'est tout un sujet, ici trace un parallèle entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est quoi le parallèle? C'est la question du sang. Et que c'était nécessaire pour introduire cette alliance. Ça c'est le parallèle avec la nouvelle alliance. Et il donne plusieurs détails. Il revient même à Exode 24, on peut voir ça dans Exode 24, comment Moïse a fait ces choses. Lorsque le peuple avait dit tout ce que Dieu nous a commandé, nous le ferons. Donc ça c'est sous la première alliance. Nous voyons au verset 4 qui bâtit un autel. Verset 5, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Et au verset 6, Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et de la moitié du sang il fit aspersion sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, il lut aux oreilles du peuple, ils dirent tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons et nous écouterons. Ils étaient sous la peine de mort. Ils étaient donc placés sous ce que la loi disait, faites ceci, vous vivrez, si vous ne le faites pas, vous êtes sous le jugement de la mort. Et le sang a confirmé cela. Verset 8, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. C'est donc pour confirmer leur responsabilité. Ils n'ont pas réalisé qu'ils seraient incapables de faire cette loi. On verra la prochaine fois, chapitre 10. La seule personne qui était capable, c'était qui? C'était le Seigneur. C'est lui qui a fait toute la volonté de Dieu. On verra cela au chapitre 10. Mais le peuple ici, pour revenir à Hébreux 9, c'est intéressant de voir que dans Hébreux 9, l'auteur ajoute quelques détails qu'on ne trouve pas dans Exode 24. On va reprendre verset 19 au milieu. Il prit le sang, Moïse prit le sang des veaux et des boucs. Le sang nous parle de la purification judiciaire. Ça veut dire le sang était nécessaire pour la purification selon la loi. Mais il est dit aussi avec de l'eau. Dans la Bible, nous voyons que l'eau parle de la purification morale. Peut-être l'eau était mélangée avec le sang, je ne suis pas sûr. Ensuite, l'application, la façon dans laquelle Moïse a appliqué ces choses, avec de la laine écarlate et de l'hysope. L'hysope est une petite plante qui est souvent mentionné dans la Bible par rapport à l'humilité ou le jugement de soi-même. L'hysope est donc une petite plante, et au bout de cette plante, il avait donc mis cette laine écarlate, et avec ça, il pouvait asperger, il pouvait faire l'aspersion sur le livre et sur tout le peuple. Donc il était ainsi sous cette alliance solennelle avec Dieu. Et ensuite, au verset 21, et de la même manière, il fit aspersion du sang sur le tabernacle. On voit cela dans Lévitique 16. On dirait Hébreux 9 est un divin commentaire sur Lévitique 16. Et ça aiderait beaucoup. On ne peut pas lire Lévitique 16 maintenant, mais dans Lévitique 16, on voit que le sang est appliqué sur le tabernacle une fois par année. Et ici, dans Hébreu, l'auteur fait référence à ça. Peut-être aussi au début de cette alliance, comme on a vu dans Exode 24. Mais là, le tabernacle n'était pas encore fait. Donc le tabernacle a été construit plus tard, et là, on voit selon cette remarque-là que l'aspersion du sang a eu lieu. Mais on sait par la Bible, Lévitique 16, c'était une fois par année. Mais peut-être c'était fait aussi lorsque le tabernacle a été construit. En fait, on sait que les choses ont été loin avec cette ville précieuse, mais peut-être aussi d'abord sous l'aspersion de ce saint. Maintenant, pourquoi le sang est tellement important? D'abord, on voit que c'est pour introduire cette alliance. C'est la base pour introduire cette alliance. C'est ici le sang de l'alliance. Et comme j'ai dit ainsi, il y a un parallèle avec la nouvelle alliance que Dieu introduit. C'est sur la base du sang de Christ. Parallèle, grand contraste en même temps. La deuxième chose, verset 22, la purification. Presque toutes choses sont purifiées par du sang. Puis là, je reviens sur ma remarque, là. Le sang était donc nécessaire pour purifier, mais en réalité, on voit que le sang a seulement couvert le péché, il ne les a pas ôtés. Et la conclusion, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. C'est un principe dans l'Ancien Testament, c'est un principe dans le Nouveau Testament. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Ça, c'est très solennel. Au verset chapitre 10, 18, on verra, or là où il y a rémission de ces choses, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Dans l'Ancien Testament, chaque année, cette offrande était présentée. Chaque année, c'était répété, répété, répété. Mais maintenant, une fois la rémission de ces choses a été réalisée, et il n'y a plus besoin d'un sacrifice pour le péché. Voilà le contraste. Donc, parallèle, contraste. Donc, pour revenir à Hébreux 9, verset 22, le sang est nécessaire pour la purification, même si c'est dans l'Ancien Testament seulement pour couvrir, mais c'est quand même la pensée de la purification. Et selon le principe que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Ça, c'est solennel. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent rien savoir du principe que le sang est nécessaire. Ils disent que c'est une théologie de sang. Ils méprisent ça. Mais selon les pensées de Dieu, c'est le seul moyen pour la rédemption. Et c'est le sang de son Fils. Verset 23, il y a aussi une question de... À la fin du verset 22, excusez. Il y a aussi une question de culpabilité. Voilà le mot « rémission ». La rémission inclut donc la pensée d'une dette. Et la dette est remise. sur la base du sang qui a été épuisé. Verset 23, il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Encore, ici, nous voyons, il y a des parallèles, il y a des contrastes. Le principe général, c'est que la purification est nécessaire. On en a parlé déjà, la purification est nécessaire. Mais c'est quoi le contraste? Dans l'Ancien Testament, les choses qui étaient purifiées, c'est le tabernacle, c'est les images des choses qui sont dans les cieux. Donc les images, c'est le système du tabernacle de Moïse, c'est les images des choses qui sont dans les cieux. Les images avaient besoin d'être purifiées par de tels sacrifices, comme on a vu au verset 19, le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau et de laine écarlate et de l'hysope. Ça c'est le point, ici au verset 23. Purifié par de telles choses. Maintenant le contraste, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que ceux-là. Donc le parallèle, c'est la pensée de la purification. Le contraste, c'est la façon de la purification et l'efficacité de la purification. L'Ancien Testament, la purification devait se répéter. Avec l'œuvre de Christ, la purification est une fois pour toutes. Et la purification n'est pas seulement le tabernacle sur la terre, la purification du Seigneur l'œuvre du Seigneur Jésus est tellement efficace que les choses célestes elles-mêmes ont été purifiées. Mais pourquoi? Pourquoi ces choses avaient besoin d'être purifiées? Le ciel. Satan, avant sa chute, il était dans le ciel. Et par son péché, il a souillé les cieux. Et même le livre de Job, on a fait référence à Job. Le livre de Job dit que même les cieux ne sont pas purs devant sa face. Même les cieux. Par exemple, Job 15:15 le dit. Même les cieux ne sont pas purs devant sa face, devant la face de Dieu. C'est par la chute de Satan et ses anges. Le ciel n'est plus pur dans ce sens-là. Et le sacrifice de Christ était nécessaire pour purifier même les choses célestes. Donc l'œuvre de Christ est tellement grande, tellement efficace, tellement merveilleuse. On pourrait lire Colossiens par rapport à la propitiation, la rédemption, mais je vais continuer dans ce chapitre parce que le temps avance. Verset 24, car le Christ n'est pas entré dans le lieu saint fait de main. Donc, on a vu les choses sur la terre, le tabernacle, les lieux saints sur la terre, étaient les copies du vrai tabernacle. Et Christ n'est pas entré dans ce tabernacle-là. Christ est entré dans les copies des vrais, les vrais lieux saints, dans le ciel. Ça, c'est son argument au milieu du verset 24. On voit comment Christ est monté et s'est assis à la droite de Dieu. On a vu cela déjà dans Hébreux 1, verset 3. Il est dans le ciel même. Donc, sur la base de son œuvre, et ça, c'est le meilleur sacrifice. Le meilleur sacrifice veut dire donc, c'est pas seulement pour purifier les choses sur la terre qui sont des copies du sanctuaire céleste. Non, le sacrifice de Christ a même purifié les choses célestes. En plus de cela, par le sacrifice de Christ, il est entré dans le lieu saint une fois pour toutes. Pas pour entrer chaque année comme le souverain sacrificateur le faisait dans l'Ancien Testament, mais pour rester maintenant là. Donc, le raisonnement du verset 24, c'est l'apparition, maintenant, au verset 24 à la fin, pour paraître maintenant pour nous. on verra, il y a trois apparitions. Il y a ici l'apparition de Christ dans la gloire comme résultat de son œuvre. On verra au verset 26, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Ça, c'est son œuvre sur la terre. Ça, c'est sa première manifestation. Le verset 24 parle de sa deuxième apparition. Ça, c'est pour paraître maintenant devant la face de Dieu. Je vais revenir à ça. La troisième apparition, c'est lorsqu'il va apparaître ou va être vu une seconde fois, verset 28. Sans péché, à salut à ceux qui l'attendent. Donc, c'est trois apparitions. Maintenant, on voit au verset 24 que sur la base de l'œuvre de Christ, il peut paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. D'abord, cette pensée-là, devant la face de Dieu. Lorsque le souverain sacrificateur entrait dans l'Ancien Testament, il entrait d'abord dans une nuée d'encens. Et lorsqu'il entrait une deuxième fois avec le sang du bouc, ou du taureau d'abord, ensuite du bouc, le lieu saint était donc rempli de ce parfum, de cet encens. Il ne voyait pas la face de Dieu. Christ est maintenant entré devant la face de Dieu, dans la présence immédiate de Dieu. C'est encore un parallèle et encore un contraste. Ensuite, à la fin du verset 24, il est mentionné afin de paraître maintenant pour nous. Il est là pour nous. Il intercède, le Seigneur dans la gloire intercède pour nous 24 heures par 24 heures. Il est là pour paraître dans la présence de Dieu pour nous. Donc ça implique son service comme souverain sacrificateur. Un service qui continue 24 heures par 24 heures. On a vu cela dans Hébreux 8, versets 1 et 2, le ministre des lieux saints, du vrai tabernacle. Et ainsi, le Seigneur est occupé tout le temps. Il est occupé là pour les intérêts de Dieu, mais aussi pour nous. Il y a deux façons. On a vu au début de cette épître, il est là pour intercéder pour nous et pour nous donner ce dont nous avons besoin pour notre voyage à travers le désert. Mais il est là aussi pour nous aider à pouvoir fonctionner comme de vrais adorateurs. Et c'est ça qu'on verra au chapitre 10. Le Seigneur veut nous introduire dans la présence de Dieu. Donc il est là déjà et il nous introduit dans la présence de Dieu. Ainsi, il est là pour nous, de deux façons, pour prendre soin de nos besoins, pour nous introduire dans la présence de Dieu comme adorateur. Et cet aspect-là sera développé donc plus dans le chapitre 10. Mais il est là pour nous. Évidemment, il est là pour Dieu aussi, comme j'ai dit, chapitre 8, verset 1 et 2, le grand ministre du sanctuaire pour prendre soin des intérêts de Dieu. Mais dans la présence immédiate de Dieu. Quel contraste avec l'Ancien Testament. Verset 25. Ni non plus afin de s'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien. Donc là, encore des parallèles, encore des contrastes. Dans l'Ancien Testament, le grand jour de la propitiation, on voit que le souverain sacrificateur entre avec sang, mais ce n'est pas son propre sang, c'est le sang d'un animal. D'abord le taureau, pour sa famille, pour lui et pour sa famille. Ensuite, le bouc, pour le peuple. On va revenir au bouc, au verset 26 et au verset 28. Donc, il entre au verset 25 dans les lieux saints chaque année, c'est donc une fois par année, avec le sang d'un animal. Tandis que Christ, on a vu cela au verset 12, peut-être vous pouvez juste voir, chapitre 9, verset 12, Christ est venu avec le sang, pas avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ou par son propre sang. Donc, quel contraste. Est entré une fois pour toutes, pas chaque année, une fois pour toutes, dans les lieux saints. Vous voyez, verset 12 montre donc le contraste entre le sacrificateur dans l'Ancien Testament et le Seigneur Jésus, qui est apparu une fois pour toutes devant la face de Dieu. Donc, verset 25, sous l'Ancien Testament, ce service se répétait. Et ça veut dire que la perfection n'était jamais là. Le fait que ce service devait se répéter chaque année implique que ce n'était jamais absolument parfait. C'était selon les standards que Dieu avait établis. Mais ça ne pouvait pas purifier les consciences, ça ne pouvait pas rendre parfait, comme on verra une prochaine fois, chapitre 10, verset 14. Parce que le lendemain, le peuple, quelqu'un qui péchait, avait de nouveau besoin d'un sacrifice. Et le sacrifice qui était fait une fois dans l'année était pour enlever les autres fardeaux qui n'étaient pas présentés par un sacrifice, pas réglés par un sacrifice. Mais pour cela, vous pouvez lire Lévitique 16. C'était pour régler la question du péché pour un an. Tandis qu'avec Christ, la question du péché a été réglée une fois pour toutes. Verset 26. Puisque, si c'était le cas, si le Seigneur avait un service comme le souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, cela avait comme implication qu'il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois. Encore une autre là. Ici, la question de la souffrance. Est-ce que le souverain sacrificateur a souffert lorsqu'il entrait dans le lieu saint? Non. Christ a souffert. Est-ce que l'animal qui est tué souffre? L'animal ne réalise pas. C'est nécessaire pour ce service que Dieu a institué, mais l'animal ne souffre pas. Qui peut sonder les souffrances de Christ? On a vu cela dans chapitre 5 déjà. Et qui peut sonder les souffrances de Christ? Personne. Je voulais juste mentionner cela. Mais l'argument ici, si Christ était comme le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament, il aurait souffert plusieurs fois comme le souverain sacrificateur entrait chaque année. Non, c'est pas comme ça. Paul dit, verset 26, à la fin, mais maintenant, en la consommation des siècles, c'est une remarque importante, Dieu a attendu 4000 ans. Dieu a vu l'homme, Dieu a mis l'homme à l'épreuve dans plusieurs dispensations. L'homme a toujours manqué. C'est vrai? Chaque dispensation, l'homme a manqué. Dans la plénitude du temps, Dieu a envoyé son Fils. Galates 4, verset 4. Le temps de mettre l'homme à l'épreuve était fini. Les 4000 ans étaient accomplis. Dieu a envoyé son Fils en la consommation des siècles. C'est un mot intéressant. C'est donc, les voies de Dieu étaient conclues. Les voies de Dieu étaient maintenant finies. La consommation. Et là, le Fils est venu pour régler toute question une fois pour toutes. Puis là, on voit encore ce mot manifesté. Il a été manifesté une fois. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé le mot « il y a trois apparitions ». Ce n'est pas dans l'original exactement le même mot, là, mais la pensée est là. Ici, la première apparition, il a été manifesté une fois. Il n'avait pas besoin de venir et partir, revenir et partir, comme le souverain sacrificateur. Il est venu une fois pour toutes. Et puis, il y a beaucoup d'emphase sur cela à travers toutes les pistes. Et je donne aussi un autre exemple dans 1 Pierre 3, verset 18, car aussi Christ a souffert une fois. On parlait tantôt des souffrances. Il a souffert une fois. Qui peut sonder la profondeur de ses souffrances? Personne. Mais c'était une fois. Ce n'est pas pour être répété. Le juste pour les injustes. Là, on voit la pensée de la substitution. On va revenir à ça au verset 20. afin qu'il nous amène à Dieu, pour nous amener à Dieu. C'est ça que Christ a fait, pour nous introduire dans la présence de Dieu. Ici, au verset 26, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché, pour mettre de côté toute cette question du péché. Comme il a mis de côté la loi de Moïse, accomplie, mais ainsi mis de côté, la loi était faible. On a vu cela au chapitre 7, verset 18, qu'il y a abrogation du commandement qui a précédé à cause de sa faiblesse et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. On a vu cela au chapitre 7. Maintenant, on a ce même mot, mais dans un autre contexte, l'abolition du péché. Voilà, c'est le premier bouc. Le premier bouc est le bouc pour la propitiation. C'est pour ça que ce jour est appelé le grand jour de la propitiation. Par le sacrifice de ce bouc, Dieu était propice envers tout son peuple. Mais j'ai dit, le sacrifice devait être répété. Maintenant, par l'œuvre de Christ, il y a l'abolition du péché. Dieu peut être propice maintenant envers tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde sera sauvé, mais Dieu peut être propice. Dieu a reçu une pleine satisfaction et Dieu pourrait pardonner tout pécheur s'il se repent. Donc l'abolition du péché, ça représente le premier bouc, comme on voit dans Lévitique 16, par son sacrifice. Ça, c'est la propitiation. Et il y a maintenant une petite parenthèse au verset 27, c'est le principe de la mort. Comme il est réservé aux hommes de mourir une fois et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi ayant été offert. Ça, c'est une règle générale. Et puis, j'aimerais expliquer cela. Ça implique qu'il n'y a pas de réincarnation dans la Bible. Ça, c'est clair. Mourir une fois. Il est manifesté une fois, verset 26, il est mort une fois. Et ainsi, c'est une règle générale pour tous les hommes, mourir. Il y a des exceptions. Enoch et Élie sont pas morts. Puis c'est pour ça qu'il y a des gens qui pensent que c'est eux qui seront les deux témoins de l'Apocalypse 11 qui vont mourir. Mais ça, c'est pas vraiment la pensée de la parole. C'est une règle générale, il y a des exceptions. Si le Seigneur vient aujourd'hui, nous sommes aussi une exception. On ne va pas mourir. Vous voyez, la règle générale, c'est il est réservé aux hommes de mourir une fois. Mais Christ est mort pour nous. Nous n'attendons pas la mort, nous attendons sa venue. C'est donc une exception. Mais la règle générale, c'est que il est réservé aux hommes de mourir. Genèse 3. On voit ça déjà dans Genèse 3. À cause du péché, de la chute. Et après cela, le jugement. Quelle pensée solennelle! C'est pour ça que la question doit être réglée avant la mort. Il y a des gens qui pensent, mais on peut prier pour ceux qui sont morts, peut-être ils passeront à travers le purgatoire, puis après milliards d'années, ils seront dans le ciel. Ça ne marche pas comme ça. Après cela, le jugement. Ce serait tout un sujet à étudier, évidemment. Parce que ça implique le grand tremblement d'Apocalypse 20. Verset 28. Ainsi, le Christ aussi, ayant été offert une fois, encore ce mot une fois, pour porter les péchés de plusieurs. Là, nous voyons son œuvre comme substitut. Ici, ce n'est pas le premier bouc, ici c'est le deuxième bouc. Sur le deuxième bouc, les péchés étaient confessés. Et seulement ceux desquels les péchés étaient confessés étaient donc purifiés, selon les pensées de Dieu, dans Lévitique 16. Ici, verset 28, on a donc la pensée de la substitution. Christ a pris la place sous le jugement de Dieu, de ceux qui croient. Il a porté les péchés de plusieurs, pas seulement d'un petit nombre, pas seulement des juifs, non, de tous les croyants, juifs et gentils, plusieurs, beaucoup, mais pas tous. L'œuvre était suffisante pour que tous puissent venir, mais comme substitut, Christ a souffert, il a porté les péchés de ceux qui croient. On voit cela dans d'autres passages de la parole. Et ainsi, il va apparaître une seconde fois, sans avoir affaire avec la question du péché. Parce que la question du péché a été réglée une fois pour toutes. Donc c'est un peu difficile, verset 28, il apparaîtra une seconde fois sans péché. Est-ce que ça veut dire la première fois, c'était avec péché? Pas du tout. Le Seigneur était sans péché, il n'a pas connu le péché, il est à part le péché, il n'a pas commis le péché, mais il a réglé la question du péché la première fois. Il a réglé cette question une fois pour toutes. On a vu cela. Lorsqu'il va revenir, il va sortir du sanctuaire. C'est pas par rapport à la question du péché, mais c'est pour notre salut. Est-ce qu'on n'est pas sauvé encore? Oui. Mais le mot salut implique ici le corps. Notre corps a besoin du salut. Christ va venir comme sauveur. Philippiens 3, verset 21. Nous attendons Christ comme sauveur. Il va venir comme sauveur pour transformer notre corps, pour le rendre conforme à son corps glorifié. C'est ainsi qu'on l'attend à salut. Et puis c'est beau de voir ce mot attendre. C'est un verbe qui revient 7 fois dans le Nouveau Testament. Et puis ça implique une attente avec expectation. On attend le Seigneur avec hâte, avec expectation. On a hâte qu'il vienne. Et il ne va pas nous mettre à honte. Il va changer nos corps, comme j'ai dit tantôt, et ainsi il va apparaître à salut. Donc ici, c'est pour glorifier nos corps. Nous avons une place déjà pour entrer dans les lieux saints, on en verra dans le chapitre 10, mais nos corps ont besoin de cette transformation pour être introduits dans le ciel. Et ainsi, le Seigneur va venir comme sauveur. Il y a aussi là un contraste avec l'Ancien Testament, si je peux mentionner cela. Dans l'Ancien Testament, on voit que le souverain sacrificateur sort après le sacrifice. On peut voir ça dans Lévitique 9. Et c'est intéressant, c'est Moïse et Aaron ensemble. On a vu dans Hébreux 3, Christ est le grand Moïse, il est le grand Aaron. Et dans Lévitique, on voit que Aaron et Moïse sortaient devant le peuple. Mais lorsque le Seigneur va venir, il va venir pour nous introduire dans le ciel. Aussi, nos corps, on a vu tantôt. Nous avons déjà le privilège de pouvoir entrer déjà maintenant, mais là, nous allons entrer aussi physiquement, avec un corps glorifié. On va entrer dans le lieu saint. Tandis que dans l'Ancien Testament, Moïse et Aaron pouvaient seulement sortir pour bénir le peuple. C'est déjà beau là. Mais le peuple ne pouvait jamais entrer dans le lieu saint. Vous voyez le contraste? Et si vous n'avez pas tout compris, là, c'est un chapitre difficile qu'on puisse saisir cette pensée-là, que l'œuvre de Christ est suffisante pour nous faire entrer dans le lieu saint, où il se trouve déjà maintenant à la droite de Dieu. Et on verra donc plus de détails sur cela dans le chapitre 10. C'est pour cela que j'ai dit aussi, il y a un lien entre chapitre 9. Chapitre 9 nous parle du grand sacrifice qui est nécessaire pour ouvrir ce sanctuaire pour nous. Et chapitre 10 va revenir à ça. Mais chapitre 10 va donner encore quelques détails sur la grandeur du sacrifice au début du chapitre. Donc dans l'Ancien Testament, l'entrée était fermée. Maintenant, sur la base de l'œuvre de Christ, l'entrée est ouverte. Et on verra, je répète, chapitre 10, encore plus de détails. Dans l'Ancien Testament, le sang pouvait seulement couvrir les péchés. Dans le Nouveau Testament, le sang a ôté les péchés. Le sang de Christ a ôté et effacé nos péchés. Je pense que j'arrête maintenant. J'avais à cœur de répéter encore quelques contrastes, mais on a vu déjà beaucoup de contrastes. Si vous avez des questions, des choses que j'ai oubliées en quelques minutes pour ça. Mais c'est un chapitre difficile, mais aussi un chapitre très riche qui nous parle de la grandeur encore de Christ et de son œuvre. Je ne sais pas si je l'ai mentionné la dernière fois, mais je pense à ça maintenant. Christ, le nom Christ revient 12 fois. Christ veut dire celui que Dieu a oint. On l'a 12 fois dans cette épître. Et on verra une autre fois le nom Jésus, on a 9 fois. Donc chaque fois que ce nom revient, c'est pour souligner la grandeur de sa personne.
J'ai peut-être une question. À la fin de la salonté, quand on a souligné le sujet de l'antécipation pour l'abolition du péché.
Oui.
Et en fait, on voit le Seigneur être la salonté pour toutes les salontés.
Oui.
Alors,
oui. Je suis content que tu poses cette question parce que au verset 26, j'aurais aimé de mentionner deux versets. On sait dans Jean 1, verset 29, lorsque Jean Baptiste a annoncé le Seigneur Jésus, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ainsi, le Seigneur Jésus a donc accompli ce sacrifice, il s'est donné en sacrifice une fois pour toutes, et c'est la base nécessaire même pour comme Jean le baptiseur le dit pour attends, j'ai oublié,